La clé est dans la serrure de l'armoire classeur. Eric la tourne et le rideau en bois se déroule docilement. Il commence à chercher dans ses dossiers. « Quelque part là-dedans, » se dit-il. « Je sais que j'ai quelque chose là-dedans sur Eva Blow. » Quand ses patients, pour une raison ou une autre, n'agissent pas comme ils s'y attendaient, quand ils sortent du cadre de leur état, ils conservent toujours des documents sur eux dans cette armoire jusqu'à ce qu'il ait compris les raisons de leur déviance. Il peut s'agir d'une note, d'une observation ou d'un objet oublié. Il écarte feuilles, cahiers à spirale, bouts de papier et reçus couverts d'annotations. Des photos jaunies dans une pochette en plastique, un disque dur externe, quelques journaux intimes de l'époque où il croyait en une ouverture totale entre patients et médecins. Un dessin fait une nuit par un enfant traumatisé. Plusieurs cassettes audio et vidéos de ses conférences à l'Institut Karolinska. Un livre de Hermann Brock rempli de notes. Les mains d'Eric s'arrêtent. Autour d'une cassette vidéo, une feuille est maintenue par un élastique brun. Sur le dos de la cassette, juste ces mots. Eric Maria Bark, bande 14. Il détache la feuille, tourne la lampe et reconnaît son écriture. La maison hantée. Des frissons glacés lui parcourent le dos et les bras. Ses poils se hérissent sur sa nuque et il entend soudain le tic-tac de sa montre. Sa tête bourdonne, son cœur s'emballe. Il s'installe sur la chaise, regarde de nouveau la cassette, d'une main tremblante il décroche le téléphone et appelle le service de gardiennage pour demander qu'on lui apporte un magnétoscope. Les pieds lourds comme du plomb, il retourne à la fenêtre, bascule les lamelles des stores et observe la couche de neige humide qui recouvre la cour intérieure. De gros flocons tombent lentement sur la vitre avant de perdre leur couleur et de fondre à la chaleur du verre. Il se dit qu'il s'agit sans doute d'une coïncidence, une étrange coïncidence, mais comprend en même temps qu'il est devant l'une des pièces du puzzle. La maison hantée. Ces quelques mots sur un bout de papier sont assez forts pour le projeter dans le passé, à l'époque où il exerçait encore l'hypnose. Il le sait. À contre-cœur, il doit s'approcher d'une fenêtre obscure et tenter de voir ce qui se cache derrière les reflets créés par tout ce temps écoulé. Le gardien frappe doucement à la porte. Eric ouvre, confirme sa demande, puis fait entrer le petit chariot avec le téléviseur et le magnétoscope étrangement désuet. Il enfonce la cassette, éteint le plafonnier et s'installe. « J'avais presque oublié cette histoire », se dit-il en dirigeant la télécommande vers l'appareil. L'image tremblote, le son crépite, se coupe un moment. Puis, il entend sa propre voix dans les enceintes de la télé. Il a l'air enrhumé lorsqu'il débite sans enthousiasme le lieu, la date et l'heure, en terminant par
« Nous avons fait une petite pause, mais nous nous trouvons toujours dans un état post-hypnotique. »
Plus de 10 années se sont écoulées, pense-t-il, et il voit l'image bouger quand le trépied de la caméra est rehaussé. L'image tremble, puis se stabilise. L'objectif est dirigé vers un demi-cercle de chaises. Il se voit alors apparaître dans le cadre. Il commence à disposer les chaises. Il y a une légèreté dans son corps plus jeune de 10 ans, un allant qu'il sait avoir perdu. Sur l'enregistrement, ses cheveux ne sont pas encore gris, et les profondes rides sur son front et ses joues ne se sont pas encore creusées. Les patients arrivent, se déplacent avec apathie, s'installent sur les chaises. Quelques-uns se parlent à voix basse. L'un d'eux rit. Les visages sont difficiles à distinguer, la cassette est de mauvaise qualité. Ils apparaissent flous et grumeleux. Eric déglutit avec peine et s'entend expliquer d'une voix métallique qu'il est temps de poursuivre la séance. Certains bavardent, d'autres restent muets. Une chaise craque. Il se voit près du mur en train de prendre des notes dans un carnet. Subitement, on frappe à la porte et Eva Blow entre. Elle est stressée. Eric distingue des plaques rouges sur son cou et ses joues. Il se voit la débarrasser et accrocher son manteau, puis la présenter brièvement au groupe et lui souhaiter la bienvenue. Les autres hochent la tête avec réserve, chuchotent un vague salut. Un ou deux ne font même pas attention à elle, préférant fixer le sol. Eric se souvient de l'atmosphère dans la pièce. Encore sous l'influence de la première phase d'hypnose avant la pause, le groupe était déconcerté par l'arrivée d'un nouveau membre. Ils avaient déjà appris à se connaître et avaient commencé à s'identifier aux histoires des uns et des autres. Le groupe était généralement composé de 8 personnes et la thérapie consistait à explorer le passé de chacun, à s'approcher par l'hypnose des points douloureux. L'hypnose se déroulait toujours devant et avec le groupe. L'idée était que, à travers cette méthode, chacun soit plus qu'un simple témoin de l'expérience de l'autre, que l'éveil hypnotique leur permette de partager leurs souffrances et de faire le deuil ensemble, comme lors de catastrophes collectives. Eva Blow s'installe sur la chaise vacante et, l'espace d'un bref instant, regarde droit dans la caméra. Son visage se fait soudain dur et hostile. Voici la femme qui s'est introduite chez lui il y a 10 ans, pense-t-il. Mais qu'avait-elle volé et qu'avait-elle fait d'autre? Eric se voit commencer la deuxième partie de la séance en se référant à la première et en enchaînant avec un jeu d'association libre. C'était un moyen de les détendre, de leur faire sentir qu'une certaine insouciance est possible en dépit des noirs abîmes et des courants contraires qui emportaient la moindre de leurs paroles, le moindre de leurs gestes. Il fait face au groupe.
Commençons par des réflexions et des associations autour de la première partie, dit-il. Quelqu'un a-t-il envie de la commenter?
Déconcertant,
dit une jeune femme forte, lourdement maquillée. Cybèle, pense Eric. Elle s'appelait Cybèle.
Frustrant,
poursuit Yussi avec un accent du Norland.
J'ai à peine eu le temps d'ouvrir les yeux et de me gratter la tête que c'était déjà fini.
Qu'est-ce que tu as ressenti?
Lui demande Eric.
Des cheveux,
dit-il en souriant.
Des cheveux?
Demande Cybèle en pouffant.
En me grattant la tête,
explique Yussi. Quelques-uns rient de la plaisanterie. Une gaieté passagère se devine sur le visage morne de Yussi.
Donnez-moi des associations sur les cheveux,
poursuit Eric.
Charlotte?
Je ne sais pas,
dit-elle.
Cheveux? Barbe, peut-être? Non.
Un hippie. Un hippie sur un chopper,
continue Pierre avec un sourire.
Ouais, il est assis comme ça, mâche un chewing-gum et descend la rue.
À grand fracas, Eva se lève subitement de sa chaise. Elle proteste contre l'exercice.
Ce ne sont que des enfantillages,
dit-elle.
Pourquoi dis-tu ça?
Demande Eric. Eva se rassied sans répondre.
Pierre, tu veux bien continuer?
Demande Eric. Il secoue la tête, croise ses index en regardant Eva et feint de se protéger d'elle. Pierre chuchote d'un air conspirateur. Yussi lève la main en direction d'Eva et dit quelque chose avec son accent du Norland. Eric croit deviner ce qu'il dit, cherche la télécommande à tâtons, la fait tomber, les piles roulent à terre.
Mais c'est pas vrai, maugrit-il en s'accroupissant.
Les mains tremblantes, il appuie sur retour rapide, puis augmente le volume quand la bande reprend sa lecture.
Ce ne sont que des enfantillages,
dit Eva Blow.
Pourquoi dis-tu ça?
Demande Eric. Et comme elle ne répond pas, il se tourne vers Pierre et lui demande de poursuivre son association. Il secoue la tête et croise ses index en regardant Eva.
Ils ont descendu Dennis Hopper parce que c'était un hippie,
chuchote-t-il. Cybèle glousse et lorgne Eric. Yussi se racle la gorge et lève la main en direction d'Eva.
Dans la maison hantée, tu n'as pas à supporter nos enfantillages,
dit-il avec son lourd accent du Norland. Tous sombrent dans le silence. Eva se tourne vers Yussi. On dirait qu'elle est sur le point de réagir agressivement, mais quelque chose la retient. Peut-être le sérieux de sa voix et le calme de son regard. La maison hantée résonne dans la tête d'Eric. Simultanément, il s'entend expliquer les principes de la procédure hypnotique, qu'il commence toujours par des exercices de relaxation collective avant de procéder à l'hypnose de l'un ou de plusieurs d'entre eux.
« Et parfois, continue Eric en s'adressant à Eva, si je sens que ça marche, j'essaie de plonger tout le groupe dans une hypnose profonde. »
Eric se dit combien la situation lui est familière, et à la fois tellement lointaine, d'une autre époque, avant qu'il ne prenne cette distance avec l'hypnose. Il se voit tirer la chaise, s'asseoir devant l'hémicycle de patients, leur parler, leur demander de fermer les yeux et de s'incliner en arrière. Au bout d'un moment, il les invite tous à se redresser sur leur chaise, mais à garder les yeux fermés. Il se lève, leur parle de la relaxation, circule derrière leur dos, observe le degré de repos de chacun. Leur visage s'apaise, se détend. Ils sont de moins en moins conscients d'eux, de moins en moins capables de dissimulation et de coquetterie. Eric voit comment il s'arrête derrière Eva Blow et pose une main lourde sur son épaule. Son ventre se contracte quand il s'entend commencer l'hypnose, puis entrer doucement dans une induction rapide avec des commandes dissimulées. Il est sûr de ses capacités et paraît content de lui.
« Tu as 10 ans, Eva, » dit-il. « Tu as 10 ans. C'est une belle journée. Tu es contente. Pourquoi es-tu contente ?»«
Parce que l'homme danse et clapote dans des flaques d'eau, »
dit-elle avec des mouvements du visage à peine perceptibles.
« Qui danse ?»«
Qui ?»
répète-t-elle.
« Gene Kelly, d'après maman. »«
Ah bon ? Tu regardes Chantons sous la pluie ?»«
Maman regarde. »«
Pas toi ?»«
Si. »«
Et tu es contente ?»
Elle hoche la tête lentement.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
Eva ferme la bouche. Son visage s'affaisse.
« Eva ?
Mon ventre est si gros ?»
dit-elle d'une voix à peine audible.
« Ton ventre ?
Il est énorme !»
dit-elle, et elle se met à pleurer.
« La maison hantée !»
chuchote Yussi.
« La maison hantée !»« Eva, je veux que tu m'écoutes !»
poursuit Eric.
« Tu peux entendre toutes les autres voix dans la pièce, mais tu ne dois écouter que la mienne. Ne te préoccupe pas de ce que disent les autres, concentre-toi sur ma voix. »«
D'accord. »
Est-ce que tu sais pourquoi ton ventre est si gros ?
Demande Eric. Son visage est impassible, enfermé dans une pensée, un souvenir.
Non.
Si, je pense que tu le sais,
dit Eric à voix basse.
Mais nous allons aller à ton rythme, Eva. Tu n'as pas besoin d'y penser maintenant. Tu veux regarder la télé de nouveau ? Je vais t'accompagner. Nous t'accompagnons tous, tout le temps. Quoi qu'il arrive, c'est promis. Nous te l'avons promis. Et tu peux nous faire confiance.
Je veux entrer dans la maison hantée,
chuchote-t-elle. Eric s'assied sur le lit installé dans son bureau. Il sait qu'il se rapproche de ses propres tréfonds, de ce qu'il a oublié, refoulé. Il se frotte les yeux, regarde l'écran tremblotant et marmonne.
Ouvre la porte.
Il s'entend énumérer des chiffres qui la plongent dans une hypnose encore plus profonde. Il explique qu'elle va faire ce qu'il dit dans un petit instant, sans y réfléchir, simplement accepter que sa voix la guide sur le bon chemin. Elle secoue légèrement la tête, et il continue son compte à rebours, laisse les chiffres tomber, lourds et soporifiques. La qualité de l'image se détériore brusquement. Eva ouvre des yeux nébuleux, s'humecte les lèvres et chuchote.
« Je les vois enlever quelqu'un. Il s'approche de lui. » Et prennent un...
Qui enlève quelqu'un ?
Demande-t-il. Sa respiration devient irrégulière.
Un homme avec une queue de cheval !
Gémit-elle.
Il accroche l'enfant !
La bande crépite et l'image disparaît. Eric passe en avance rapide jusqu'à la fin, mais l'image ne revient pas. La moitié de la bande est perdue, effacée. Il reste devant l'écran noir. Il voit son reflet le regarder dans l'obscurité profonde. Il voit à la fois le visage de l'homme qu'il était et son visage d'aujourd'hui, 10 ans plus tard. Il regarde la cassette bande 14, puis l'élastique, et enfin le bout de papier sur lequel sont inscrits les mots « La maison hantée ».